Qui suis-je vraiment ?
La question est difficile et surtout la réponse.
Yvonne l'a bien dit et le sketch l'a bien démontré. On ne sait jamais vraiment qui est l'autre, mais aussi qui nous sommes, qui l'on est vraiment. Pourtant, il y a des moments où dans la vie où cette question se pose avec angoisse, en particulier quand un restaurant dont je tairai le nom vous appelle à venir lui rendre visite comme vous êtes. Et là, on est vraiment dans la mouise. Comment y aller comme on est quand on ne sait pas trop qui on est? Et c'est vraiment un problème d'ordre existentiel qui se pose à nous, non pas à chaque fois que nous voulons aller au McDonald's, oh flûte, je l'ai dit, mais à chaque fois que l'on parle de l'identité, un problème existentiel. Parce que quand on se pose la question de savoir qui on est vraiment, on se pose la question de notre identité. Une question qui touche au domaine existentiel, mais plus encore au domaine essentiel qui est le domaine de l'essence, de l'être. Du moi profond, comme on a dit tout à l'heure, qui touche à mon être, ce que je suis là, maintenant, vraiment, mon identité. Et comme d'habitude dans ces cultes en 3D, nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse, avec beaucoup d'humilité, à cette question de l'identité et le faire sous l'angle de la parole de Dieu, la Bible. Je ne sais pas si à la sortie vous saurez mieux qui vous êtes vraiment. Mais on va essayer de cheminer ensemble et de déblayer un peu le terrain et d'ouvrir quelques pistes. Et comme toujours, notre société propose pour sa part quelques réponses à la question posée « qui suis-je » ou à la question de l'identité. Et elle nous dit à travers les médias ou la psychologie, sociologie, que nous sommes chacun pour sa part ou que notre identité est la somme des rôles que nous jouons et qui nous sont plus ou moins imposés par la société. La combinaison de ces identités que la société réclame de nous et de moi, de vous. Les rôles. Imaginons la vie de Madame Y. J'aurais pu l'appeler X. Mais c'est Madame Y. Le matin, elle est maman de 3 enfants pendant 1 heure ou 2 heures. Et puis après, elle sort travailler pendant 3 heures. Et là, elle est une professionnelle en relation avec ses collègues et ses supérieurs. À midi, elle est au groupe Frangine avec ses amis de la communauté religieuse à laquelle elle appartient. L'après-midi, elle reprend son rôle de travailleuse. Puis elle redevient mère vers la fin de l'après-midi et l'avant-soirée. Mais en rentrant de l'école, elle rencontre une voisine et là, elle prend le rôle de voisine, de citoyenne de la cité. Le soir, elle essaie tant bien que mal de prendre le rôle d'épouse parce qu'elle sent que le mari commence à se sentir délaissé. Je caricature. Hein. Juste après le repas, sa mère lui téléphone et elle prend le rôle de fille attentive aux besoins de sa mère vieillissante, hein, et cela pendant une demi-heure. Et puis après, elle part à la chorale où elle prend avec plaisir son rôle de femme cultivée qui aime les arts. Et après cette journée fatigante, elle se couche extrêmement fatiguée en ne sachant plus vraiment où elle habite et qui elle est. Toute ressemblance avec une personne existante serait tout à fait fortuite. Et on aurait pu faire un autre portrait, qui n'est pas celui que vous pensez, mais et vous pouvez faire le vôtre. Tous les rôles que vous jouez au long de la journée, tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long des mois, tout au long de l'année, l'accumulation des rôles. Eh bien, les sociologues nous disent que notre identité, c'est cela, la somme, la combinaison de tous les rôles que nous jouons à longueur d'année. Le problème, alors c'est sûr que les rôles que nous jouons ont un rôle à jouer dans notre identité. Mais il y a quand même un problème avec ça, c'est qu'au fond, avec tous ces rôles, on ne sait toujours pas qui on est vraiment, comme Y l'a dit tout à l'heure. Quand je sors de mes rôles, qui suis-je en fait? Que se passe-t-il quand on enlève tous mes rôles? Est-ce qu'il y a quelqu'un au fond? Oh! Imaginons encore les parents, c'est pas nous, mais qui ont un fils à la fac, ce sont des choses qui arrivent. Et un jour, ils reçoivent un coup de fil de leur fils qui leur dit « Écoutez les parents, après les vacances, j'ai décidé de prendre un trimestre de congé. » Et les parents, « Oh, ah bon ?» Et pourquoi donc? Vous savez, les parents, je ressens que j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi. Les parents restent calmes. Ils travaillent dur pour payer la chambre d'étudiant à leur enfant qui est à l'université dans une grande ville et donc très cher. Il finit tant bien que mal sa première année de faculté. Il n'a encore rien fait dans la vie. Mais bon, les parents sont patients et demandent « Mais du temps, mais pourquoi faire ?» Et le fils leur répond « J'ai besoin de temps pour me trouver. » Et le père ne dit rien, mais il le pense tellement fort qu'il le dit presque. « Mais t'as 19 ans et demi, qu'est-ce que tu veux trouver ? T'as encore rien fait. » Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent-là, mais... T'as 19 ans et demi, il n'y a rien à trouver, mon ami. Mais il ne dit rien. Et heureusement, la mère, comme souvent, prend la parole et dit « Oui, on comprend bien que tu aies besoin de faire le point. Mais est-ce que tu es sûr que tu as besoin de 3 mois pour ça ? Et que tu vas trouver quelque chose qui te sera utile pour la suite ? Tu sais, ton père et moi, etc. etc. » Et cette histoire fictive, mais tout à fait plausible, hein, nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui a besoin, en effet, de se débarrasser des rôles sociaux et des identités qui lui sont imposées par la famille, par les parents, par la faculté, par l'église, s'il y va, par les copains, par la société. Et on peut comprendre qu'il ait envie de les enlever tous, mais on peut se poser la question avec les parents de savoir que quand il sera débarrassé de toutes ses identités, plus ou moins imposées, qu'est-ce qu'il va trouver au fond ? On pourrait prendre l'illustration de l'oignon. Quand on épluche un oignon, que reste-t-il à la fin ? Rien. L'oignon n'est en fait que la somme totale de ses couches de peau. Les couches d'oignon, c'est l'oignon. Et quand on l'épluche, il n'y a plus rien après. De même, il n'est pas sûr que l'introspection de notre moi va nous permettre de découvrir notre vrai moi. Quelqu'un disait très bien que le moi n'est pas une identité qui attend d'être découverte, mais une identité qui attend d'être formée. Il n'y a personne au fond de vous qui attend d'être trouvé, mais il y a quelqu'un en vous qui attend d'être créé. On parlera plus tard de ce que cela pourrait être, mais en tout cas, il me semble qu'on peut dire que la recherche au plus profond des couches se révèle une quête un peu décevante et qu'en même temps, réduire notre identité à ces couches superposées de rôles sociaux à jouer ne rend pas compte non plus de la réalité de ma personne. C'est trop court et vraiment dispersé. N'y aurait-il pas quelque chose pour unifier un peu notre identité, quelque chose qui me ressemble et me rassemble malgré tout en tant que personne ? Parce que si nous ne sommes que la somme des rôles sociaux que la société nous impose, nous risquons d'avoir une identité un peu explosée. Et si nous sommes simplement la somme totale des rôles sociaux que nous jouons, nous ne sommes pas plus avancés pour répondre à la question « qui suis-je ?» Et on voit le jeune là au milieu, sous sa cagoule, qui il est vraiment. La question se pose encore. Et avec la Bible, les chrétiens pensent qu'il y a quelque chose justement qui rassemble notre identité et qui nous ressemble en même temps. Et ce quelque chose est plutôt un quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est, vous l'attendez, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu le Fils. Et il y a des versets de la Bible, des paroles de la Bible qui sont très fortes là-dessus et qui nous disent que c'est en lui, en Christ, que nous trouvons, que nous nous retrouvons et que nous trouvons notre identité. Et que nous pouvons, sur lequel nous pouvons fonder notre identité. Et un verset biblique qui n'est pas pris par hasard le dit extrêmement bien. C'est un verset, c'est une parole de Paul, l'apôtre Paul, saint Paul comme on dit. Mais avant d'être saint Paul, il était juste Paul. Et avant sa conversion chrétienne, il était un homme extrêmement déterminé à réussir dans la vie, extrêmement basé sur sa carrière religieuse. Il était prêt à tout pour réussir, même à aller jusqu'à la violence. Et voilà ce qu'il dit aux Galates, quand il écrit sa lettre aux Galates. « Je vis, j'existe, je suis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Et il y a deux éléments importants dans cette parole, c'est cette vie de Christ en moi, c'est souligné. Christ qui vit en moi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est lui qui fait mon identité. Et pourquoi il fait mon identité ? Deuxième partie, parce qu'il m'a aimé et qu'il a donné sa vie lui-même pour moi. Et là, Paul nous parle de la croix et de la mort de Jésus sur cette croix où Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi. La croix symbole le comble de l'amour fou de Dieu pour moi. Et cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ sera le fondement de mon identité. Mon identité, c'est comme Yvonne l'a dit tout à l'heure, c'est d'être aimé de Dieu, adopté par Dieu, choisi par Dieu, et cela sans aucun mérite de ma part. Et ça, c'est essentiel, fondamental, et ça, ça fonde mon identité. Il y a, dans la première partie de la Bible, voilà, l'identité en Christ avec mon empreinte, pour marquer mon identité, la croix au milieu, l'identité en Christ. Et il y a dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, plusieurs fois cette parole qui dit, qui revient et qui dit « Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Quelle est mon identité ? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez moi, mon être, pour que tu t'intéresses à moi, pour que tu marques cet intérêt pour moi ?» C'est David qui le dit, le roi David, mais c'est aussi Job, le pauvre Job qui le dit. Et ce n'est pas une parole qui marque le doute par rapport à l'intérêt de Dieu, que Dieu pourrait avoir. Non, c'est une parole qui marque l'étonnement. Qu'est-ce que je suis pour que tu marques un intérêt aussi prononcé en faveur de ma personne ? Et en réponse à ce grand étonnement, on pourrait mettre cette autre parole de Paul, qui, je l'ai déjà dit avant d'écrire de si belles choses, était un homme, ce que l'on sait. Voilà ce qu'il dit. « Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. » Mais par grâce, je suis ce que je suis. Et cet amour a donné de bons résultats en moi. En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est l'amour de Dieu qui agit en moi. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Le verbe être, l'essence, l'identité. Cet amour de Dieu qui fonde mon identité nouvelle est en Jésus-Christ, celui qui nous a aimés. Mais alors, la question à se poser, c'est comment prendre cette identité, comment se fonder sur cette identité. Et il y a un autre mot important dans le premier texte que nous avons lu de Galates, que je remets sur l'écran, c'est « Je la vis, cette nouvelle identité, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé. » Et le mot « croire » est important, il ne s'agit pas de croire comme on croit aux extraterrestres ou aux fantômes, il s'agit de croire en faisant confiance, ou mieux encore, en entrant en relation avec Jésus-Christ, en lui ouvrant la porte de sa vie pour qu'il s'y installe et que notre vie soit changée par son amour qui agit en moi. La foi est une histoire non pas de religion, mais de relation. Et dans toute relation, il y a un engagement. Et dans la relation avec Jésus-Christ, il y a cette démarche à faire de vouloir se poser en lui, s'identifier en lui, se localiser en lui, de se fonder en lui et de vouloir se trouver ou de se retrouver en lui. Et comme Paul le disait aussi dans cet autre verset que j'ai souligné, mais on voit à peine le soulignage, cet amour a donné de bons résultats en moi. J'aime bien cette histoire. Il a donné de bons résultats en moi. Cette nouvelle identité en lui donne de bons résultats dans la vie. Et pour revenir à la couche de l'oignon ou de ces rôles sociaux que nous vivons, ils sont encore là, ces rôles sociaux. Mais en Christ, on va les vivre différemment. La dame dont j'ai parlé au début sera toujours maman, mais elle sera une mère chrétienne. Et donc un peu différente quant à la finalité ou au sens qu'elle donnera à sa maternité. Elle sera toujours une professionnelle, mais une professionnelle chrétienne, et donc un peu différente par rapport à l'éthique du travail et aux relations qu'elle aura avec ses collègues. Elle sera toujours une amie pour d'autres, mais un peu différente parce qu'elle sera une amie chrétienne qui cherchera dans cette amitié non pas son propre intérêt, mais l'intérêt des autres. Elle sera toujours la fille de ses parents, mais une enfant chrétienne, ce qui changera un peu les rapports avec ses parents, une voisine chrétienne, une citoyenne chrétienne. Les mêmes rôles ou les mêmes relations, mais vécues différemment parce que son identité est désormais en Christ. Ça donne de bons résultats. Alors il y a une autre explication de notre identité que l'on suggère, que la société nous suggère, c'est que nous ne serions que le produit de notre enfance. Cela veut dire que nous ne serions en quelque sorte, que nous serions en quelque sorte programmés par notre spirale ADN, par nos gènes, nos chromosomes, mais aussi par notre éducation ou les expériences bonnes ou mauvaises vécues dans notre enfance, notre prime enfance, notre enfance, notre adolescence. Et c'est une explication bien connue, je ne dois pas vous faire un dessin à part celui de l'ADN. Le problème avec ce genre d'explication, c'est si notre identité est simplement le produit de notre enfance, c'est qu'il y a une absence de liberté laissée à l'homme qui est évidente. Je ne peux rien décider si tout est programmé. Si je ne suis que le produit de mon enfance et de ma spirale ADN, je ne peux pas changer le cours de mon histoire. Et donc il y a un risque énorme de fatalisme, bon, c'est écrit, j'y peux rien. De déterminisme, c'est écrit, j'y peux rien. Déterminé fatalement à continuer la voie inscrite dans mes gènes ou autre chose. Alors on ne peut pas nier que les gènes et les expériences de la prime enfance ont une influence sur notre comportement et nos réactions dans la vie. Mais il serait faux de dire qu'ils ont une emprise totale sur la vie de la personne. Il y a des histoires qui montrent que le fatalisme et le déterminisme ne sont pas une fatalité. J'ai deux amis que j'ai connus en Belgique, qui sont deux frères, qui ne sont pas nés avec les bonnes gènes, qui n'ont pas grandi avec la bonne éducation. Leur père était un ouvrier, un travail assommant, il fumait comme un turc, il passait son temps à faire des réussites chez lui dans ses temps libres. Il avait divorcé de leur mère qui était prostituée au port d'Anvers, ça ne s'invente pas. Et j'allais souvent chez eux à Bruxelles, et chez eux ça sentait la clope, la bière et les frites qu'ils mangeaient deux fois par semaine, très régulièrement, le mardi et le jeudi, si mes souvenirs sont bons. Eh bien, mes deux amis, ces deux frères, ils ont fait des études universitaires. L'un a une maîtrise en traduction et un doctorat en théologie. L'autre est ingénieur informatique et il a conçu un logiciel de sécurité informatique qui intéresse les grosses boîtes. 300 000 euros le prix de base. L'un s'est marié à une Américaine, l'autre, le summum de la réussite sociale, à une Allemande. Ils ont deux et trois enfants qui vont très bien. Mais je peux vous dire qu'au départ, tout n'était pas aligné pour que ça fonctionne. Je ne veux pas idéaliser non plus. Ils ont leur caractère. Le premier a un caractère très fort, un peu très fort. Le second a un caractère plus faible, avec des moments de dépression. Et ces caractères s'expliquent aussi par l'enfance qu'ils ont eue. Mais quand même, quand je les vois aujourd'hui et quand je compare avec leur maison rue Marbotin, leur appartement au quatrième étage rue Marbotin à Schaarbeek, maintenant vous connaissez Schaarbeek, un quartier malfamé de Bruxelles, à la fin des années 70, je me dis que l'histoire des deux frangins est un beau pied de nez au déterminisme, au fatalisme social et génétique. Je viens aussi de lire un article par un enseignant au MIT qui nous dit que nous pouvons, et le titre était fantastique, influencer l'expression de nos chromosomes. À côté de la génétique, nous dit-il, il y a l'épigénétique qui nous dit que le milieu dans lequel nous sommes actuellement, peut activer certains gènes ou inhiber d'autres gènes. Il prend par exemple celui de jumeaux monozygotes qui ont exactement le même patrimoine génétique, mais selon tout un tas de choses, leur alimentation, leur pratique sportive et ça c'est important, leur relation sociale. Ce patrimoine génétique va s'exprimer de deux manières différentes pour les deux jumeaux. Certains gènes vont être activés, d'autres non, et les deux jumeaux peuvent devenir des personnes différentes avec des caractères complètement différents. Et moi, j'ai eu envie de dire, ouf, fini le diktat de l'ADN. On n'est pas déterminé par notre spirale ADN. On garderait un petit peu la main sur ou le choix sur ce que l'on fait, sur ce que l'on est. Alors, évidemment, selon cette théorie, ce n'est pas vraiment l'homme qui a la main, c'est plutôt son environnement qui influence l'activation ou non des gènes. Mais moi, je me dis que quelque part, l'homme, il peut aussi choisir son environnement. Il peut choisir, prendre des décisions par rapport à son environnement dans lequel il veut se placer, choisir les relations sociales qu'il veut avoir et qui vont influencer son caractère et son identité. Et donc, on ne peut pas dire que l'identité de l'individu se réduise exclusivement au produit de son patrimoine génétique et de son enfance. En tant que chrétien et avec la Bible, on reconnaît que le passé peut avoir des conséquences sur notre présent, notre façon de réagir, je l'ai déjà dit. Mais on voit aussi qu'il peut y avoir une autre action dans notre vie qui serait extérieure à notre existence et qui s'appellerait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, pour la résumer en deux mots, c'est une combinaison parfaite, parce qu'elle est de Dieu, de l'amour et du pardon. L'amour, on en a déjà parlé, le pardon comme la grâce présidentielle, qui est quelque part un peu le pardon, pas tout à fait, mais amour et pardon qui font la grâce. Et cette grâce de Dieu représente toute l'action de Dieu en nous, et cela malgré et avec toutes les expériences passées que nous avons vécues et qui ont laissé des traces en nous. Et je me dis que comme l'environnement peut jouer un rôle dans l'expression de mes gènes, l'environnement de la grâce va exercer une influence énorme dans la vie de celui qui la reçoit. Parce que cette conjonction d'amour et de pardon va enlever un poids, ou le poids parfois insupportable, de ce que j'ai subi dans mon enfance, mon adolescence et ma vie présente même, et de ce que j'ai commis aussi, et qui me marque en profondeur, dans mon identité, dans mon moi. Cette grâce va nous permettre de faire une croix sur le passé. Et le jeu de mots est voulu. Par le pardon, il va nous permettre de faire une croix sur le passé, et il va nous permettre de regarder vers l'avenir accompagné par son amour. J'aime aussi cette parole de la Bible, c'est encore Paul qui parle et qui avait peut-être un problème d'identité. Il dit « ce que nous sommes », verbe être encore, « nous le devons à Dieu ». Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu ». Par sa grâce, c'est-à-dire cet amour sans mesure et son pardon qui libère de la culpabilité et de la pesanteur de la vie. Il y a une recréation d'identité en lui. Et pourquoi faire ? Pour nous faire accomplir les bonnes actions qu'il a préparées, pas programmées, préparées comme on prépare pour une fête, qu'il a préparées pour nous afin que nous puissions les accomplir. L'identité en Christ me donne de l'élan pour me tourner vers les autres, me donne une raison d'être et de vivre. Et comme le disait Jean-Paul Sartre, l'homme ne peut pas vivre sans raison de vivre. Ça semble être une évidence. L'identité en Christ me donne une raison de vivre et un avenir. Et donc, en fait, pour le chrétien, la vie n'est pas centrée sur le passé, ni sur lui-même, ni centrée sur cette recherche de son moi profond, mais elle est tournée vers l'avenir. La relation avec Jésus est une relation d'avenir. Et la question, en fait, à se poser n'est pas de savoir qui je suis vraiment, mais qui je veux être, qui je veux devenir, ou avec qui je veux entretenir une relation qui a de l'avenir. Et la relation avec Jésus a de l'avenir. Et pour reprendre la question de l'environnement, qui joue sur l'activation de mes gènes, la question à se poser est de savoir de quel environnement je veux recevoir l'influence. Et on est plusieurs ici, comme les deux frères, Erwin et Marc, dont j'ai parlé tout à l'heure, à avoir choisi l'environnement de la grâce de Dieu. Pour les chrétiens, notre identité est vraiment en Dieu et pas dans la somme des rôles sociaux que nous jouons, ni dans notre ADN exclusivement. Et pour finir, je cite un scientifique de notre communauté, dont les initiales sont DS, qui me disait il y a quelques semaines, l'ADN, c'est comme un clavier de piano, il n'y a pas de partition écrite, c'est Dieu qui joue. On n'est pas tous chrétiens ici et nous le respectons et on vous remercie de votre présence. Mais j'aimerais simplement lancer un appel à tous ceux qui hésitent encore à faire le pas, et il y en a quelques-uns parmi nous, et même un appel à ceux qui sont entrés récemment dans la vie chrétienne, et un appel même aux vieux briscards de la foi. En trois phrases, comme j'aime le faire, je vous invite à réfléchir à la question de votre identité. Sur quoi vous fondez-vous ? Sur quel rôle ? Est-ce que c'est votre métier qui vous identifie ? Est-ce que c'est votre culture générale ? Est-ce que ce sont vos relations amicales ? Est-ce que c'est les combats que vous menez qui vous identifient ? Posons-nous la question de notre identité et la question de savoir, est-ce que ça me définit vraiment ? Et est-ce que c'est suffisant pour me faire vivre ? Pour me donner un avenir. Et puis, j'inviterai aussi à se placer sous sa grâce, cet amour mêlé de pardon, ou le contraire, venir ou revenir à un nouvel environnement, celui de la grâce de Dieu qui agit dans la vie et nous donne des perspectives nouvelles, une nouvelle identité pour une vie nouvelle, le best-seller depuis 30 ans. Et puis, dernier mot, venir tel que l'on est, mais pas comme au McDo. Venez comme vous êtes, avec vos problèmes d'identité, vos questions d'identité, avec vos expériences passées qui pèsent, avec les faiblesses, mais aussi avec vos joies, avec vos réussites, avec votre fatigue ou votre désir d'aller de l'avant. Venir tel que nous sommes pour laisser Dieu jouer sur le clavier de notre vie. Et je peux vous dire qu'il en joue avec beaucoup de grâce. Amen.